FM, le journal. Boris Gouagouni.
Bonjour et bienvenue dans ce journal. Les titres. Le monde célèbre ce jour, 29 mai, la journée internationale des casques bleus. Les détails à la une de ce journal. Les examens du concours d'entrée en 6e ont eu lieu ce lundi sur toute l'étendue du territoire centrafricain. Dans ce journal, nous serons au lycée Marie-Jeanne Caron à Bondy et à Bria. Et notre invité de la rédaction sera Richard Guérigbagba. Il nous parlera des avancées enregistrées dans le cadre de la révision du code électoral centrafricain.
Dira FM.
Les détails. Le monde célèbre ce 29 mai la journée internationale des casques bleus. C'est une journée proclamée par les Nations Unies pour rendre hommage à tous les hommes et à toutes les femmes qui ont servi dans des opérations de maintien de la paix. Le thème retenu pour cette année est 70 ans de service et dévouement. En Centrafrique, la MINUSCA organise une série d'activités dans les régions et à Bangui afin de rendre hommage au personnel civil, policier et militaire des opérations de maintien de la paix par rapport à leur engagement et sacrifice en faveur de la paix en RCA. Séraphin Nbudza est major dans le contingent congolais de la MINUSCA. Il explique les raisons de son engagement dans les casques bleus.
Je suis venu contribuer à l'atteinte des objectifs visés par la MINUSCA, notamment la protection des populations civiles, le rétablissement de l'autorité de l'État et la restauration de la paix dans la République centrafricaine. Dans un environnement où les rumeurs infondées sont à la mode, notre rôle par la communication consiste à prendre la parole et à utiliser, à dire la vérité, à présenter la réalité. C'est à travers ces moments privilégiés que nous tentons de faire passer un message. Là où les rumeurs infondées ont dit de n'importe quoi, ont dénaturé la réalité, nous, notre rôle, c'est apaiser justement en disant, en utilisant les vrais mots pour dire à la population que de croire à la paix, d'être unis afin que nous allons tous l'accompagner vers la pacification du pays. La vie, c'est une question de choix. Nous avons choisi faire partie désormais de la famille qu'on appelle Nations Unies, notamment la MINUSCA. Et nous pensons que oui, c'est un sacrifice.
Suivant aussi le commissaire Joséphine Minang de la police des Nations Unies. Elle explique le travail que fait la police de la MINUSCA conjointement avec les forces de sécurité intérieure.
Je suis venu pour apporter une aide, ma contribution dans le retour et le maintien de la paix en Centrafrique. Nous menons à travers nos UNPOL dans les commissariats et brigades des sensibilisations sur la non-violence, par exemple, sur les violences basées sur le genre, sur la cohésion sociale et sur la non-prise des drogues. Deuxièmement, nous faisons des patrouilles au niveau des quartiers, dans tous les quartiers, avec les leaders des quartiers pour avoir plus d'informations afin de rapporter à notre hiérarchie pour le plan de sécurisation de la ville de Bangui et le retour à la paix définitive. Ce que nous faisons, c'est de montrer, rehausser l'image de la police et de la gendarme à la population qui a perdu confiance pendant les crises. Nous observons en même temps que les FSI changent de comportement depuis que nous faisons des renforcements à leur côté.
Restons sur la célébration de ce jour qui marque la journée internationale des casques bleus et rendons-nous à Boire. Sur place, 50 personnes viennent de bénéficier gratuitement de soins et d'une sensibilisation sur la conduite à tenir afin de lutter contre le paludisme et la carie dentaire. Tout en appréciant cette activité du contingent péruvien, Dibeli Valentin, le sous-préfet de Abay, préfet par intérim, exhorte la MINUSCA d'augmenter le nombre de bénéficiaires. On l'écoute au micro de Nestor Ndikoumana.
J'ai eu à visiter deux ou trois ateliers. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que ils ont organisé ces ateliers-là en deux phases. Une phase théorique et une phase pratique qui permet aux malades de voir ce qu'ils peuvent faire quand ils sont attaqués, par exemple, par un cas de paludisme. On leur a montré les dispositions à prendre. Ils doivent suivre les conseils des médecins, les médicaments qu'ils reçoivent. Ils doivent prendre ça tout en respectant les consignes des médecins. C'est ça qui m'a beaucoup marqué. Pour ma part, je pense que si la population prend conscience en un mot de tout ce qui leur a été dit et qu'ils mettent ça en pratique, ça aidera beaucoup à éradiquer le cas du paludisme dans la Nanamambire. Bon, vous savez, ils ont pris les 50 premiers. Il y a beaucoup de monde qui sont restés dehors. Donc si jamais ils voulaient prendre 100 ou 200 personnes, la population est là pour ça. Enfin, donc là, premier temps, remercier la ministre pour cette bonne initiative. Mais je souhaite que la fois prochaine, qu'ils puissent quand même accorder beaucoup plus de place au lieu de 50. Par exemple, ils peuvent prendre 100 personnes. Ça aidera beaucoup. Et surtout que les soins sont gratuits. Moi, ça profite à la population.
Sachez que ce mardi 29 mai, il est prévu une campagne de soins gratuits pour un large public à l'hôpital préfectoral de Boire par les contingents camerounais et bangladais.
Dira FM.
Cap sur Bria, où les examens de fin d'année ont débuté ce lundi avec le concours d'entrée en 6e. 697 candidats ont pris part aux différentes épreuves. On fait le point avec vous, Christian Balou.
Et il tombait.
Très concentrés, les candidats suivent attentivement la dictée.
Une pluie serait.
Cette épreuve semble être abordable.
Je m'appelle Mire Espoir.
Là, c'est comment ça va?
Ça va bien.
Et la dictée, ça va? Tu arrives à t'en sortir?
Oui, la dictée, ça va bien. Ça marche, tout est bien.
Tout est bien, mais c'est pas difficile. Hein?
Oui, c'est pas difficile.
Je m'appelle Pune Agorayurache. Ça va bien.
L'inspecteur du Fondamental 1 s'est dit satisfait du bon déroulement des épreuves. Jacques Kagapou.
Cette année, c'est presque une année étoilée, particulière. Nous n'avons pas connu ces soubresauts. Nous remercions d'abord les partenaires qui nous ont appuyés. Pour preuve, nous avons la Minusca Force qui est en train de sécuriser ces examens. Et donc, les enfants travaillent dans la quiétude. C'est une année de succès déjà.
Ce succès n'a pas été obtenu sans difficulté, comme nous l'explique le président du centre, André Lemercier.
Nous sommes confrontés à des difficultés d'acheminement des sujets. Les sujets étaient arrivés à Bambari, mais la remontée à Bria était un peu difficile parce qu'il n'y avait pas d'occasion. Donc c'est avec l'appui de la MINUSCA que ces épreuves-là nous sont parvenues. Mais les sujets nous sont parvenus en nombre insuffisant parce qu'évidemment il y a un problème de poids. Donc la MINUSCA ne pouvait pas prendre autant de poids. Donc les sujets sont arrivés en nombre insuffisant. Je prends par exemple le cas de l'étude TEX. C'est un nombre vraiment très insuffisant. Nous sommes à 697 candidats. Plus les candidats de Yalinga, ils sont une vingtaine, c'est presque 800 quelques candidats. Et donc vous voyez que nous avons eu seulement 120 copies d'études textes. C'est encore la MINUSCA qui nous a aidés à multiplier ces copies-là. Et aujourd'hui, ces enfants sont en train de composer.
Cette année à Bria, 697 candidats composent pour le concours d'entrée en 6e. Christian Balou, Lira FM, Bria.
Merci Christian. Éducation toujours, et à Bangui aussi, il y a eu le concours d'entrée en 6e. Plus d'un millier d'élèves venus de 15 établissements publics et privés de la capitale ont composé ces épreuves au lycée Marie-Jeanne Caron. Écoutons Célestine Dungawenzou, le proviseur du lycée Marie-Jeanne Caron. Elle revient sur le déroulement de ces épreuves au micro de Julio Itadé.
Et ce matin, il y a eu un afflux d'enfants qui venaient de différents établissements primaires pour cet examen. Les professeurs sont là. Et nous avons aussi retenu quelques instituteurs de ces différents établissements pour surveiller, en même temps pour corriger l'examen. Le concours d'entrée en 6e, comme d'habitude, se passe dans une seule journée. Présentement, on a fini avec les épreuves d'orthographe. On vient de lancer l'autre épreuve qui est l'étude de texte. Donc, tout enfant en classe de CM2 doit passer le concours d'entrée en 6e avant d'accéder au collège.
Aux côtés du concours d'entrée en 6e, il y a eu aussi au même lycée Caron, ce lundi, les épreuves sportives du baccalauréat. Étaient présents les candidats du lycée Barthélemy Bouganda qui ont passé les épreuves de lancer de poids, de saut en hauteur, de gymnastique et de course de vitesse. Angèle Viviane Orondrou est la présidente du dit centre. Elle est au micro de Julio Itadé.
Ça s'est bien passé parce qu'on a démarré depuis 3 à 4 jours avec les établissements de série A. Bien, nous sommes aux séries C et D du lycée Barthélemy Bouganda ce jour. Puisqu'on entend vers la fin, ça s'arrête le 7 juin. Les candidats sont présents, mais sachez que certains candidats peuvent s'absenter pour des causes différentes qu'on ignore. Ou bien pour des cas de maladie, ou bien pour ne pas écouter l'information et quelques absences sur le le terrain. Quand le candidat ne se présente pas, ça veut dire qu'il ne peut pas être pris en compte en ce jour. S'ils sont absents, ça veut dire qu'ils méritent la note qu'ils peuvent le recevoir. En cas de maladie, il y a le service de santé scolaire qui est là, sur place dans les centres pour examiner ces cas. On peut les dispenser automatiquement sur le terrain au cas d'un accident.
Guira FM, dossier sport.
On passe des sports, basketball, préparatif des éliminatoires retour de la Coupe du Monde. Le nombre de fauves a été réduit à 12. Ils étaient en tout 18 fauves issus du championnat de Bangui, convoqués par l'entraîneur Gabin Ulrich Marida. Après le match test du dimanche dernier, le coach des fauves a réduit sa liste à 12 et après le dernier match test du jeudi prochain, cette liste sera à nouveau réduite à 5. Si tout se passe bien, la délégation quittera Bangui le samedi prochain à destination de Tunis pour un stage de 3 semaines avant de se rendre à Dakar fin juin.
L'invité de la rédaction.
Notre invité de la rédaction est le rapporteur général du comité d'organisation de la télé nationale de validation de l'avant-projet du code électoral. Richard Guérec-Bagba parle aussi des avancées enregistrées dans le cadre de la révision du dit code électoral. Suivant.
Richard Guérec-Bagba, rapporteur général du comité d'organisation de la télé nationale de validation de l'avant-projet du code électoral. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Tout d'abord, pourquoi reviser le code électoral? Qu'est-ce qui a motivé cette révision?
Je vous remercie pour la pertinence de votre question. La révision du code électoral était une décision unanime de l'ensemble des parties prenantes au précédent processus électoral, tant sur le plan national qu'international. Il y avait également l'atelier national de validation qui a regroupé toutes ces parties prenantes qui ont émis dans leurs recommandations la nécessité de reviser ce code électoral. Je ferai beaucoup plus une déclinaison aux axes, les principaux axes qui ont guidé cette révision. Il y a d'abord la mise en conformité du cadre juridique institutionnel par rapport à la dernière constitution, c'est-à-dire la constitution du 30 mars 2016. Deuxièmement, il y a également la capitalisation des leçons tirées ou apprises lors des dernières élections. Et puis, troisièmement également, comme axe, l'amélioration des pratiques électorales. Voilà les principaux axes qui ont guidé la nécessité de cette révision du code électoral. Et c'est dans ce sens que les autorités ont bien voulu mettre en place un groupe technique de travail pour assumer cette responsabilité.
Alors, le groupe technique a été mis en place. Quelles sont les avancées enregistrées à ce jour concernant cette révision du code électoral?
Comme je le disais tantôt, les recommandations issues de l'atelier d'évaluation du code électoral où il y avait toutes les entités tant nationales qu'internationales, le gouvernement n'a pas laissé ça lettre morte. Et cette manifestation de la volonté politique du gouvernement qui a donné suite aux recommandations de l'atelier par rapport à la mise en place de groupes de travail qui, avec les membres composant ce groupe de travail, ont réfléchi sur les principales avancées. C'est dans un premier temps, le gouvernement, dès la fin de l'année 2016, a mis en place un groupe technique de travail composé des différents experts émanant des différentes institutions participantes au processus électoral et dont les attributions de ce groupe technique de travail, il y avait deux missions qui lui ont été assignées, à savoir la réforme du code électoral et le groupe de travail avait également, entre autres missions, de collecter et de faire la synthèse de toutes les propositions en matière de la dite réforme. Autre avancée également, c'est l'organisation de la journée d'information à l'endroit des députés pour permettre à nos parlementaires de s'approprier ce projet de la réforme du code électoral. Parce que, in fine, au bout de la chaîne, ce sont nos parlementaires qui auront à voter cette loi portant code électoral. En termes d'avancée également, le travail accompli, le travail abattu par le groupe de travail technique qui a été mis en place, qui s'est matérialisé par la production effective d'un avant-projet de loi portant code électoral. Et cet avant-projet de loi ainsi que le rapport général du groupe de travail ont été remis à nos plus hautes autorités dès le mois de septembre passé. Dernière avancée, c'est la confirmation de la volonté politique du gouvernement. Une fois entré en possession de l'avant-projet et du rapport général du travail du groupe technique de travail, a transformé ce groupe technique en comité d'organisation de l'atelier national de validation. Et cette volonté politique s'est manifesté également par la confirmation par le gouvernement de la convocation de la tenue des assises de cet atelier les 18, 19, 20 et 21 juin 2018. Voilà, monsieur le journaliste, les principales avancées dans le cadre de cette réforme du code électoral. Je tiens également à le dire que cet atelier mobilisera également tous nos partenaires, tant nationaux et puis internationaux, qui nous ont toujours aidés dans le cadre de la réalisation de notre processus électoral.
Alors, l'avant-projet de code électoral a été partagé aux parties prenantes. Pour terminer, quel est votre message à l'endroit de ceux qui ont reçu ce document?
Je dirais qu'il faut d'abord soulever l'inclusivité, la transparence et l'équité qui ont présidé aux travaux du groupe technique de travail, c'est-à-dire les documents qui ont été distribués. Nous les avons faits sur la base de ces grands principes dont je l'ai rappelé ici. Équité et équilibre de toutes les parties prenantes. Et pour être plus prosaïque avec vous, il y a 22 places allouées aux représentants des partis politiques, 22 places allouées aux représentants des organisations de la société civile et 22 places allouées également aux représentants des pouvoirs publics. Transparence également, je vous disais tantôt, de la mise en adéquation dans le cadre de l'idée maîtresse qui a également présidé cette révision, la prise en compte de la question du genre. C'est la raison pour laquelle dans les invitations qui ont été envoyées aux trois entités dont je viens de faire mention ici, le comité d'organisation les a priés de prendre en compte cette question du genre, c'est-à-dire une entité qui est représentée par deux représentants, le comité leur a souhaité d'envoyer une représentante à côté d'un représentant. Cela expliquerait encore une fois de plus la déclinaison pratique de notre loi sur la parité. Comme message, je tiens à le dire ici que tous les destinataires des documents, que ce soit les parties prenantes nationales et puis nos partenaires techniques et financiers, ont le droit, je le dis bien, ont le droit, et c'est ce que le comité attend, d'apporter toutes les observations ou encore des contributions sur les documents qui leur ont été remis. Et ces observations et contributions se feront sous la forme écrite. Là, c'est une méthodologie que nous avons adoptée pour gagner du temps et pour des questions d'efficacité, parce que nous ne voulons pas exclure la possibilité, cette liberté donnée à chaque entité d'exprimer, d'apporter sa contribution. Et ce sont ces contributions écrites, une fois réceptionnées par le comité d'organisation, qui, au passage, je le signale ici, servira de la direction scientifique de cet atelier. On va les compiler afin de faire ressortir les points sur lesquels il fallait négocier le consensus. Tous les destinataires des documents que nous avons acheminés depuis le 18 ont le droit d'apporter des contributions écrites et puis de le renvoyer jusqu'au 30 mai au comité d'organisation afin de faire la synthèse.
Votre mot de la fin.
Je tiens également à préciser ici, comme je le disais tantôt, par rapport à la méthodologie du travail qui a été initiée par le comité d'organisation, que les documents relatifs à l'atelier national de validation, nous les avons distribués à la quasi-totalité. Chaque destinataire a 11 jours pour nous faire parvenir au niveau du comité d'organisation ses observations écrites. Certains participants n'ont pas eu leurs documents à temps voulu. Nous les avons distribués vers le 21, le 22, voire le 25. À ceux-là, mea culpa, ils ont également ce délai de 11 jours pour nous faire parvenir leurs observations écrites.
Richard Guéré-Bagba, rapporteur général du comité d'organisation de la télé nationale de validation de l'avant-projet du code électoral, je vous remercie.
Je vous remercie, monsieur le journaliste.
C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le monde célèbre ce jour, 29 mai, la journée internationale des casques bleus. Nous venons de suivre dans ce journal le travail de ces derniers. Les examens du concours d'entrée en 6e ont eu lieu ce lundi sur toutes les endroits du territoire centrafricain. Nous étions au lycée Marie-Jeanne Caron à Bangui et à Bria. et notre invité de la rédaction était Richard Guéret-Gbagba. Il nous a parlé des avancées enregistrées dans le cadre de la révision du code électoral centrafricain.
Dira FM.
Nous avons reçu l'appui technique de Samson Rodrigue Andjoukara Kogia. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Boris Ngwagouni, nous vous donnons rendez-vous à la fois prochaine. Toujours sur la 93.3. Dira FM, les ondes de la paix.